D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore fait à leur manière. Toujours à railler, jamais un mot de raison. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la gitanilla ». Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi, et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. Elle avait un jupon rouge, fort court, qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge, attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules, et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche, et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches, comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole. « Compère, me dit-elle, à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort ? » « C'est pour attacher mon épinglette, lui répondis-je. « Ton épinglette ? » s'écria-t-elle en riant. « Ah, monsieur fait de la dentelle, puisqu'il a besoin d'épingles. » Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien à lui répondre. « Allons, mon cœur, reprit-elle, fais-moi 7 aunes de dentelle noire pour une mantille, épinglier de mon âme. » Et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança, d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer. Je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçussent et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore. Quand arrive dans le corps de garde, un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée, et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre 2 hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entré dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les 4 fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure, qu'on venait de lui marquer en 2 coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen, tenue par 5 ou 6 commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien, elle serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. J'eus grand-peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens, dit Carmen, qui avait une langue, tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne se connaissait pas en balai, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne, ni filleule de Satan, mais que mademoiselle Carmencita ferait bientôt connaissance avec son âne, quand monsieur le corrigidor l'amènerait à la promenade avec 2 laquais par derrière pour l'émoucher. « Eh bien moi, dit Carmen, je te ferai des abreuvoirs à mouches sur la joue, et je veux y peindre un damier. » Là-dessus, vli, vlan, elle commence, avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait. Mais elle dit d'un air résigné « Marchons, où est ma mantille ?» Elle l'a mis sur sa tête de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes deux hommes, douce comme un mouton. Arrivés au corps de garde, le maréchal des logis dit que c'était grave, et qu'il fallait la mener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre deux dragons et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom par les détours qu'elle fait, dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur, et, se tournant vers moi, autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous ? » « À la prison, ma pauvre enfant, » lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. « Hélas, que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil. » Puis d'un ton plus bas. « Laissez-moi m'échapper, » dit-elle. « Je vous donnerai un morceau de la barlachie, qui vous fera aimer de toutes les femmes. » La barlachie, monsieur, c'est la pierre d'aimant, avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges, quand on sait s'en servir. Faites-en boire à une femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus. Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison. C'est la consigne. Il n'y a pas de remède. Nous autres, gens du Pays basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols. En revanche, il n'y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire « bye jaona ». Carmen, donc, n'eut pas de peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les bohémiens, monsieur, comme n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues. Et la plupart sont chez eux en Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout. Même avec les Maures et les Anglais, ils se font entendre. Carmen savait assez bien le basque. La Guna est née Biotz Arena, camarade de mon cœur, me dit-elle tout à coup. Êtes-vous du pays ? Notre langue, monsieur, est si belle que lorsque nous l'entendons en pays étranger, cela nous fait tressaillir. Je voudrais avoir un confesseur des provinces, ajouta plus bas le bandit. Il reprit après un silence. « Je suis d'Elizondo, » lui répondit Jean Basque, fort ému de l'entendre parler ma langue. « Moi, je suis d'Etchalar, » dit-elle. « C'est un pays à 4 heures de chez nous. » J'ai été emmené par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère, qui n'a que moi pour soutien, et un petit baratzea avec 20 pommiers à cidre. Ah, si j'étais au pays, devant la montagne blanche. On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchand d'oranges pourries. Et ces gueux se sont mises toutes contre moi, parce que je leur ai dit que tous leurs jacques de Séville, avec leurs couteaux, ne feraient pas peur à un gars de chez nous, avec son béret bleu et son maquila. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une païse ? Elle mentait, monsieur, elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie cette fille-là a jamais dit un mot de vérité. Mais quand elle parlait, je la croyais. C'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque, et je la crus navarraise. Ses yeux seuls et sa bouche et son teint la disaient bohémienne. J'étais fou. Je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que, si des Espagnols s'étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. J'étais tout près d'en faire. « Si je vous poussais, et si vous tombiez, mon pays, » reprit-elle en basque, « ce ne serait pas ces deux conscrits de Castillon qui me retiendraient. » Ma foi, j'oubliais la consigne et tout, et je lui dis « Eh bien, mamie, ma païse, essayez, et que Notre-Dame de la Montagne vous soit en aide. » En ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites, comme il y en a tant à Séville. Tout à coup, Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissais tomber exprès, à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes. On dit jambes de basque. Les siennes en valaient bien d'autres. Aussi vite que bien tournées. Moi, je me relève aussitôt. Mais je mets ma lance en travers, de façon à barrer la rue. Si bien que, de prime abord, les camarades furent arrêtés au moment de la poursuivre. Puis, je me mis moi-même à courir, et eux après moi. Mais l'atteindre, il n'y avait pas de risque, avec nos éperons, nos sabres et nos lances. En moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu. D'ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite, et se moquaient de nous, et nous indiquaient la fausse voie. Après plusieurs marches et contre-marches, il fallut nous en revenir au corps de garde, sans un reçu du gouverneur de la prison. Mes hommes, pour n'être pas punis, dirent que Carmen m'avait parlé basque. Il ne paraissait pas trop naturel, pour dire la vérité, qu'un coup de poing d'une tant petite fille eût terrassé si facilement un gaillard de ma force. Tout cela parut louche, ou plutôt trop clair. En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour un mois à la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu les galons de maréchal des logis que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. En me faisant soldat, je m'étais figuré que je deviendrais tout au moins officier. Longa, Mina, mes compatriotes, sont bien capitaines généraux. Chapalangara, qui est un négro comme Mina et réfugié comme lui dans votre pays, Chapalangawa était colonel. Et j'ai joué à la paume 20 fois avec son frère, qui était un pauvre diable comme moi. Maintenant, je me disais, tout le temps que tu as servi sans punition, c'est du temps perdu. Te voilà mal noté. Pour te remettre bien dans l'esprit des chefs, il te faudra travailler 10 fois plus que lorsque tu es venu comme conscrit. Et pourquoi me suis-je fait punir? Pour une coquine de bohémienne qui s'est moquée de moi, et qui, dans ce moment, est à voler dans quelques coins de la ville. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Le croyez-vous, monsieur? Ces bas de soie troués qu'elle me faisait voir tout en plein en s'enfuyant, je les avais toujours devant les yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue, et, parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valût cette diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée, et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Un jour, le geôlier entre et me donne un pain d'alcala. « Tenez, dit-il, voilà ce que votre cousine vous envoie. » Je pris le pain, fort étonné, car je n'avais pas de cousine à Séville. « C'est peut-être une erreur, pensais-je en regardant le pain. » Mais il était si appétissant, il sentait si bon, que, sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, je résolus de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde, et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant que le pain fût cuit. Il y avait encore dans le pain une pièce d'or de 2 piastres. Plus de doute alors, c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté est tout. Et il mettrait le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. D'ailleurs, la commère était fine, et avec ce pain-là, on se moquait des geôliers. En 1 heure, le plus gros barreau était scié avec la petite lime, et avec la pièce de 2 piastres, chez le premier fripier, je changeais ma capote d'uniforme pour un habit bourgeois. Vous pensez bien qu'un homme qui avait déniché maintes fois des aiglons dans nos rochers ne s'embarrassait guère de descendre dans la rue, d'une fenêtre haute de moins de 30 pieds. Mais je ne voulais pas m'échapper. J'avais encore mon honneur de soldat. Et déserter me semblait un grand crime. Seulement, je fus touchée de cette marque de souvenir. Quand on est en prison, on aime à penser qu'on a dehors un ami qui s'intéresse à vous. La pièce d'or m'offusquait un peu. J'aurais bien voulu la rendre. Mais où trouver mon créancier? Cela ne me semblait pas facile. Après la cérémonie de la dégradation, je croyais n'avoir plus rien à souffrir. Mais il me restait encore une humiliation à dévorer. Ce fut à ma sortie de prison, lorsqu'on me commanda de service et qu'on me mit en faction comme un simple soldat. Vous ne pouvez vous figurer ce qu'un homme de cœur éprouve en pareille occasion. Je crois que j'aurais aimé autant à être fusillé. Au moins on marche seul, en avant de son peloton. On se sent quelque chose, le monde vous regarde. Je fus mise en faction à la porte du colonel. C'était un jeune homme riche, bon enfant, qui aimait à s'amuser.